Studio Tamani, voici les informations en français.
Vous écoutez bien sûr Studio Tamani, voici la synthèse de l'actualité matinale. Les victimes des coups et blessures volontaires rencontrent des difficultés dans leur prise en charge à l'hôpital. Une situation qui frustre beaucoup de Maliens. Que dit la loi sur la question? La réponse dans cette édition. Les coupures d'électricité s'intensifient de plus en plus au Mali. Des habitants se dirigent vers des matériels rechargeables comme alternative. Des adultes qui raffolent de la céréale lactée, communément appelée cérélac pour bébé. On en parle dans notre chronique Zoom sur. Au micro, Mariam Maïga, la technique est assurée par Mamadi Keïta. Je vous le disais donc dans les titres. Le week-end dernier, un jeune homme de 17 ans a trouvé la mort après avoir reçu des coups de machette de la part de son ami de 18 ans. Le drame s'est passé à Tchabani, un quartier périphérique de Bamako. Selon des témoins, les médecins du centre de santé où la victime a été transportée pour recevoir des soins ont exigé un document de la police avant de s'occuper du blessé. Une attitude qui a frustré de nombreux citoyens. Que dit la loi sur la prise en charge des victimes des coups et blessures volontaires au Mali? Moussa Malé Sissoko est allé à la rencontre des médecins.
Ce drame de Tchabani a ravivé le débat sur la prise en charge des cas urgents dans les hôpitaux et centres de santé. Selon de nombreux citoyens, les victimes d'agressions physiques et d'accidents de la route rencontrent des difficultés dans leur prise en charge.
Mais les médecins disent que non, on ne va pas toucher tant que vous ne partez pas à la police une autorisation pour qu'ils puissent toucher aux victimes. Ça, c'est pas normal.
On peut laisser souvent de côté la loi et regarder le bon sens des choses et essayer d'arrêter l'hémorragie.
Arrivé à l'hôpital, il faut faire les premiers. On va voir ce qu'il y a lieu de faire.
Que disent les textes en matière de prise en charge d'une victime d'agression ou d'accident? Docteur Modibo Doumbia, président de l'Ordre des médecins de Bamako, répond.
Normalement, le médecin est tenu d'informer l'officier de police judiciaire. Ça permet de couvrir le médecin et de couvrir l'établissement. Les victimes peuvent être agressées par un inconnu, peut-être qui est recherché même par les services de renseignement et autres.
Docteur Doumbia précise cependant que cette disposition ne doit pas s'appliquer dans tous les cas.
La prise en charge des patients n'attend pas souvent la réquisition. Le patient dont le pronostic vital est engagé, il faut sauver la vie d'abord.
Des agents de santé sont-ils au courant des dispositions de cette loi hospitalière? Des Maliens s'y interrogent.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. Nouvel accident de la circulation a fait 15 morts et 46 blessés lundi dernier. Le drame est survenu entre Kessédougou et Ouan sur la route nationale 6 dans la région de San. Cet accident vient encore poser le débat sur la sécurité sur les axes routiers. Quelles sont les causes de ces nombreux accidents sur les routes maliennes? Où se situent les responsabilités? Comment mettre fin à ces accidents? Élément de réponse dans ce reportage de Aïssata Diarra.
De nombreuses raisons peuvent expliquer la multiplication des accidents de circulation, explique Makan Foufran, membre de l'Association des consommateurs du Mali. Les responsabilités se situent à plusieurs niveaux, dit-il.
Un, tous les facteurs de surcharge sont causés par les usagers. Le second facteur, l'état défectueux des routes. Aucun car au Mali ne respecte la vitesse réglementaire. Quel que soit l'état d'un car, tu vas trouver que là, tous les papiers en règle. Et il y a des passagers qui rentrent là-dedans.
L'implication fréquente des cars dans les accidents s'explique par l'engouement suscité autour de cet engin dû à sa rapidité, selon Siaka Djakite, vice-président du syndicat national des transporteurs routiers urbains et interurbains du Mali, Centru Mali.
Nos transports interurbains sont loués aujourd'hui à des cars. Donc ils sont le plus consommés. Pour cette raison, ils sont trop impliqués aussi dans les accidents.
Toutefois, les responsables de l'ASCOMA ajoutent que les mesures prises par les autorités pour diminuer les accidents servent à percevoir de l'argent, d'où leur inefficacité. Aussi, nos interlocuteurs prônent une formation en faveur des chauffeurs sur les règles de conduite et une sensibilisation à l'endroit de la population pour sauver des vies.
Un reportage signé Aïssata Diarra. Parlons à présent de cette journée mondiale célébrée hier. Il s'agit bien sûr du tourisme, qui est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sécuritaire qui prévaut au Mali depuis 2012. Cette situation a fortement mis à mal la profession de guide touristique devenue presque inexistante. Alors, que deviennent les guides touristiques au Mali? Où en sommes-nous avec la relance des activités touristiques? Fatia Tara nous en dit plus.
Ibrahim Touré et Yaya Tangara sont membres de la Fédération nationale des guides touristiques du Mali. Ils sont respectivement de Tombouctou et Mopti, des régions touristiques par excellence. Ils se sont tous les deux convertis dans d'autres métiers à cause de l'arrêt du tourisme depuis 2012.
J'ai fait ce travail depuis que j'ai 25 ans. Il m'a permis de construire une maison et de me marier. Je me débrouille, mais si les choses s'arrangent, je vais redevenir guide.
Il y a quand même pas mal d'amis qui souffrent beaucoup. Quand quelqu'un a perdu ce travail-là, aller travailler par exemple dans le manœuvre ou faire le mototaxi ou les menuiseries, c'est vraiment difficile pour la personne.
M. Touré et Tangara se disent cependant sceptiques quant à la reprise de leurs activités au vu de la situation sécuritaire que traverse le pays. Certains experts du secteur du tourisme estiment pourtant que l'espoir est permis. Il suffit juste d'une volonté politique des autorités. San Chirifi, ancien directeur général de l'OMATO, Office malien du tourisme et de l'hôtellerie.
Il faut développer un tourisme local, régional et sous-régional, et un tourisme national jusqu'à ce que le tourisme international vienne compléter et enrichir l'activité touristique.
Les retards dans le remboursement des emprunts bancaires, l'épuisement des fonds de roulement et l'appauvrissement des populations vivant dans la zone touristique, voilà des problèmes majeurs qu'a provoqué l'arrêt du tourisme au Mali.
Autre titre de l'actualité, le marché des ventilateurs rechargeables est florissant pendant cette période de coupure dans la capitale. Des citoyens affirment que c'est la seule alternative en ces moments de chaleur qui s'annonce. Les prix varient entre 30 000 et 50 000, voire 60 000 francs CFA. Certains préfèrent ces prix à ceux des groupes électrogènes et panneaux solaires. Cita Sidibi.
En cette période de délestage intempestif, les ventilateurs rechargeables sont fortement sollicités par les populations. C'est ce qu'affirme Mohamed Doumbia, vendeur de ventilateurs au grand marché de Bamako.
Actuellement, là où nous sommes avec la coupure d'électricité, il y a beaucoup de personnes qui en veulent. Mais malgré la hausse du prix, là, il y a beaucoup de gens donc, qui ont déjà acheté. Le prix varie entre 30 000 à 60 000. Il y a plusieurs marques. Il y a le Roche, ABC, NS.
Selon certaines personnes dans la ville de Bamako, cette alternative est un ouf de soulagement pour éviter la chaleur, surtout pendant des coupures d'électricité.
Les ventilateurs rechargeables sont très utiles pendant cette période.
Personne ne sait quand est-ce que cette coupure prendra fin. C'est obligatoire qu'on achète des ventilateurs rechargeables.
Maintenant, avec ce délestage, ces ventilateurs rechargeables nous sont utiles, puisqu'un pauvre ne peut ni se procurer d'un groupe électrogène ni de panneaux solaires.
À rappeler qu'avec ce délestage, beaucoup de citoyens utilisent des panneaux solaires et autres pour des besoins d'électricité.
Rendons-nous à Kaï où l'Organisation internationale pour la migration assiste des migrants rapatriés. Plus d'une soixantaine de migrants maliens de retour ont été dotés de kits d'insertion par l'OIM. La remise du don s'est déroulée le mardi 20 février. Ses bénéficiaires viennent des cercles de Bafoulabé, Djema, Kaï, Kita, Nioro du Sahel et Yelimane. Ils ont reçu des bœufs de labour, des charrues, des semoirs, des semences et engrais. La cérémonie a été présidée par le chef du sous-bureau OIM de Kaï.
Studio Tamani. Projet de la Fondation Hirondelle au Mali, financé par le gouvernement de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni, par l'Union européenne et la coopération espagnole.
On en vient à notre chronique Zoom sur du jour. Qui a dit que le Cerelac est uniquement fait pour les bébés? Certains adultes continuent d'en manger et tenez-vous bien, même souvent celui réservé aux bébés. Dans notre chronique Zoom sur, Lale Tangara nous parle de ces adultes amateurs de Cerelac.
Ne dit-on pas que tout ce qui fait du bien à un enfant n'est pas interdit pour un adulte? Cette expression si bien avec le cas de ces personnes qui continuent de consommer du Cerelac pour bébé. Même étant vieux, certains ont du mal à se débarrasser de cette habitude enfantine. Il n'est pas exclu de retrouver des boîtes ou des sachets de Cerelac cachés sous le lit de certains adultes. Il y a de ce papy qui reste attaché à ses compléments alimentaires pour enfants et refuse catégoriquement de manger les nourritures recommandées par son médecin. Mieux, Il en fait même une recette. Soit il le mange avec du lait, du sucre, voire du miel. Ou encore, il ajoute des bananes, des fraises, des pommes ou des raisins secs. Si vous avez des parents ou grands-parents amateurs, n'hésitez pas à vous faire pardonner avec du cérélac en cas de petit malentendu. Mais mettez les cérélacs de vos bébés à l'abri, car il y a aussi les gros bébés qui rôdent dans les parages.
Et c'est sur cette chronique signée Lale Tangara que prend fin cette édition qui vous a été présentée par Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keita. Ne décrochez pas car l'info continue. Les hémorroïdes touchent près de 50% de la population malienne, indiquent des spécialistes de la santé. Une maladie considérée taboue dans notre société à cause de son emplacement. Les patients qui souffrent de cette pathologie n'osent pas l'aborder dans leur entourage par pudeur ou par honte. Mais de nombreux patients se dirigent vers les tradis praticiens et espèrent une prise en charge discrète et rapide. Dans le magazine Santé du jour, on parle des hémorroïdes et de sa prise en charge, une réalisation de Fatoumata Koudjo avec le concours de nos correspondants.
Les personnes atteintes de la maladie d'hémorroïdes souffrent généralement de douleurs à cause des symptômes. Angoissés par la maladie, certains lancent un cri de cœur pour un meilleur traitement.
Lorsque tu es atteint de l'hémorroïde, ton dos aussi avec tes articulations te font mal. Si tu pars à la toilette, tu n'es même pas satisfait.
Je souffre de l'hémorroïde. J'ai fait beaucoup d'hôpitaux, mais aucun résultat positif. Ce sont les médicaments traditionnels qui m'ont soulagé un peu. Ça va mieux aujourd'hui.
Ça me donne des maux de tête. J'entends toujours parler à la radio qu'il y a un traitement traditionnel contre l'hémorroïde. Quand j'ai été à l'hôpital, ils ont voulu m'opérer.
Selon les explications des médecins, les hémorroïdes se caractérisent généralement par des douleurs anales et des saignements lors des selles. Professeur Lassana Kanté, chirurgien généraliste à l'hôpital Gabriel Touré, nous édifie davantage sur cette pathologie.
L'hémorroïde pour nous, c'est une structure anatomique qui est présente chez tout le monde. Donc ça participe à la continence. Quand cette structure augmente de volume et commence à provoquer des manifestations cliniques. C'est là que nous, on parle de la maladie hémorroïdaire, qui se traduit par des saignements, des boutons au niveau de l'anus. Et il faut noter qu'à peu près 50 à 80% de la population adulte est atteinte de cette pathologie.
Professeur Lassana indique que la maladie est mieux connue par la population. C'est pourquoi les malades viennent généralement avec des complications. Cependant, il assure que le traitement est curatif.
La plupart des patients commencent par les tradithérapies et ils viennent chez nous au stade de complication. On examine le patient. Donc pour le stade 1 et le stade 2, c'est les traitements médicaux qui vont permettre de soulager le malade. Mais au stade 3, quand les paquets sortent, on est obligé d'opérer, qui permet de guérir la maladie hémorroïdale une fois pour toutes. Et ça n'a aucune répercussion sur la vie génitale et sur la fertilité.
Les plantes sont également utilisées en médecine traditionnelle dans le traitement de la pathologie hémorroïdaire. Les thérapeutes utilisent différentes méthodes, comme nous expliquent ces tradithérapeutes de Bankas et de Tomia.
On a des médicaments qu'on peut mélanger avec du beurre. Les patients mangent ça pour lutter contre l'hémorroïde.
On peut traiter l'hémorroïde avec des plantes traditionnelles qui peuvent anéantir les symptômes de la maladie. Même si la maladie cause des boutons.
À Tombouctou, près de 100 personnes sont diagnostiquées hémorroïdaires. La prise en charge se fait en fonction de la gravité des symptômes. Toutefois, Dr Garba Kumta demande aux populations de faire attention aux produits qui constipent.
Au niveau de la clinique, on a une centaine de cas par an, donc généralement liés à la constipation. La prise en charge, généralement, si ça complique, c'est au niveau de l'hôpital. Surtout si la personne saigne, peut aller à un moment jusqu'à ce que la personne a besoin d'être transfusée. Tant que la personne est constipée, la maladie persiste. On recommande aux gens de beaucoup boire, ça fait partie du traitement. Donc il y a des pommades aussi qu'on met pour pouvoir diminuer la douleur, donc avec d'autres médicaments.
Selon les spécialistes, les maladies hémorroïdaires touchent généralement les personnes qui passent plus de temps assis ou debout dans leur travail, notamment les chauffeurs, les tailleurs et les porteurs d'uniformes.